Radio Kapi.
Le journal Babel Pongo Massimango à la présentation.
Madame, Monsieur, bonjour. Nous parlerons de l'extension de la ville de Kinshasa avec la pose hier de la première pierre à Menkaoua Maluku. Le projet Kinshasa Kiamona se veut une réponse concrète aux embouteillages, à la saturation urbaine et au désordre spatial que connaît la capitale aujourd'hui. Nous sommes déjà le 23 décembre et comme tous ces jours-ci, nous allons palper l'ambiance des préparatifs des fêtes de fin d'année à travers le pays. À Matadi et Kindu, nous serons aujourd'hui, c'est encore la morosité. Nous recevons une fois de plus Ndei Kadilo, porte-parole de la MONUSCO sur la résolution 2808 qui prolonge d'un an le mandat de la mission onusienne. Dans cette deuxième partie, elle explique notamment comment la MONUSCO compte mener à bien son nouveau mandat alors qu'elle a déjà entamé son retrait progressif. Bienvenue à cette édition du journal. Le projet d'extension de la partie est de Kinshasa vient de franchir une étape décisive. Le chef de l'État a posé hier lundi la première pierre de ce vaste programme. La cérémonie a été organisée à la cité de Menkaou, dans la commune urbano-rurale de Maluku. Baptisée Kinshasa Kiamona, que l'on peut traduire par Kinshasa, la ville de rêve, ce projet ne se limite pas qu'à la construction d'infrastructures. Pour le gouverneur de la ville, il s'agit avant tout d'une réponse concrète aux embouteillages, à la saturation urbaine et au désordre spatial qui caractérise aujourd'hui la mégapole congolaise. Blaise Ndongala Mayanda signe ce reportage.
Le lancement des travaux de ce projet témoigne la volonté du gouvernement de répondre aux défis structurels auxquels la ville de Kinshasa est confrontée. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa souligne que le projet Kinshasa Kiamona apporte sans doute des réponses concrètes aux problématiques majeures de la ville, notamment la pression démographique, l'urbanisation non planifiée et bien d'autres défis. Pour Daniel Bumba, ce projet vise à offrir aux Kinoises et Kinois un espace de vie conforme aux nouvelles normes urbanistiques et environnementales.
L'objectif est clair, désengorger les centres-villes, rééquilibrer l'occupation de l'espace urbain et offrir aux Kinoises et aux Kinois un cadre de vie sain, sécurisé et fonctionnel.
De son côté, le ministre de l'Urbanisme et Habitat estime que ce projet constitue un acte politique majeur et une rupture nette avec des décennies d'urbanisation désordonnée et inefficace. Il note cependant que ce programme instaure une urbanisation productive, créatrice de richesses et porteuse de plusieurs bénéfices pour la population quinoise.
Le projet est l'expression concrète de cette volonté de rompre avec la logique de l'urbanisation spontanée.
Mégalopole de plus de 16 millions d'habitants, Kinshasa est en passe de devenir d'ici 2030 la ville la plus peuplée d'Afrique, selon certaines projections crédibles citées par les ministres de l'Urbanisme et Habitat.
Merci Blaise Ndongala. Le centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire, anciennement hôpital du Cinquantenaire, vient de relancer ses activités depuis hier à Kinshasa. Il démarre en même temps la gratuité de la maternité. Pour le ministre de la Santé, cette cérémonie marque en même temps la reprise effective de la gestion publique, la réactivation progressive des services hospitaliers ainsi que la présentation du nouveau modèle de fonctionnement de cette institution hospitalière, un modèle qui met l'accent sur la qualité des soins. Roger Kamba a inscrit à cette occasion que le coût d'un examen scanner ne dépasse pas $80. Il a insisté également sur la nécessité de renforcer le service public afin que les structures privées s'alignent sur ces normes. Que retenir de plus, Rachel Kalombé?
Les soins de maternité et ceux destinés aux nouveau-nés seront désormais gratuits à l'hôpital du Cinquantenaire. L'électricité y a été rétablie et l'État congolais a remis le service en marche tout en dotant l'établissement des équipements nécessaires à son bon fonctionnement. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Kayembe, a salué l'engagement de l'institution universitaire dans la redynamisation de l'hôpital.
J'instruis absolument de dire que l'assiette doit être absolument élargi parce que nous venions d'être dotés d'un nouveau centre universitaire qui assurera la formation et la diplomation des personnes qui y arriveront.
Le ministère de la Santé a également annoncé la mise en coalition du centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire avec l'hôpital Ngaliema et la clinique universitaire afin de garantir à la population kinoise un accès élargi à des soins de qualité.
Cet hôpital de 800 lits en plein centre-ville de Kinshasa était pour moi un crève-cœur. Je comprenais pas pourquoi cet hôpital était résumé à une morgue. Pourquoi tous ces espaces ne servaient pas à notre population?
Le ministère de la Santé a conclu en appelant les habitants de Kinshasa à fréquenter cet hôpital qui offre des soins de qualité.
Nous parlons à présent des préparatifs de fête de fin d'année à quelques jours de Noël et du Nouvel An. La ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, affiche son visage inhabituellement morose. Contrairement aux années précédentes où l'ambiance festive se manifestait déjà à travers les décorations, la musique et une activité commerciale intense, la capitale provinciale semble aujourd'hui plongée dans une certaine léthargie. Aucune décoration n'est visible le long des principales artères. Les marchés, magasins et autres centres de négoce tournent au ralenti. Nana Purichmambo, reportage.
Sur les plans économiques, cette morosité est particulièrement perceptible dans les marchés et zones commerciales habituellement très animées en cette période. Dans ces espaces de négoce, l'affluence des clients reste faible. Conséquence, les produits habituellement prisés à l'approche des fêtes, vivres, boissons, vêtements ou encore jouets, s'écoulent difficilement et les échanges commerciaux demeurent insignifiants. Commerçants et clients interrogés évoquent une baisse marquée du pouvoir d'achat et une circulation monétaire devenue rare, rendant les préparatifs des festivités particulièrement compliqués. Témoignage.
Mais ces jours-ci, la vente est lourde. Les gens n'achètent pas. L'argent ne circule pas. Nous ne savons pas comment est-ce que nous allons passer ces moments de festivité.
Sur les plans sécuritaires, malgré les dispositifs mis en place par les services compétents, Matadi connaît en cette période une recrudescence des visites domiciliaires des criminels armés, du banditisme urbain et des braquages, selon plusieurs observateurs. À cela s'ajoute une insécurité routière accrue, marquée par des accidents mortels et des gigantesques embouteillages. À ces jours, aucun espace public de la ville n'est décoré d'un sapin ou des lumières festives, ne permettant même pas aux habitants de prendre des photos en cette période censée être joyeuse. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Les préparatifs des fêtes de fin d'année restent également très timides dans plusieurs familles de Kindu, chef de la province du Maniema. Lors d'une ronde effectuée dans certains ménages, notre reporter n'a constaté aucun signe particulier d'animation. Les enfants, principaux concernés par cette période festive, s'inquiètent du manque d'engouement de leurs parents, alors que comptent bien passer ces fêtes. Qu'en est-il exactement, Florence Kizalunga?
À Kindu, mis à part le sapin géant installé au rond-point de la tribune centrale, aucune autre décoration publique n'est visible. La même situation prévaut dans les ménages où les enfants commencent à s'inquiéter.
Les 25, c'est Noël. Chez nous, il n'y a rien, même pas de décoration. Chez nous, jusque là, on n'a rien acheté. Moi, j'aime fêter.
Nous, on s'attend seulement à la fête.
Pour certains parents, le contexte sécuritaire du pays ne permet pas de se projeter dans les festivités.
C'est un peu déplorable, voyant la situation actuelle que traverse la République démocratique du Congo. On n'a même pas envie d'organiser cette fête de Noël, moins encore la fête de Nouvel An. Mais aussi, un autre problème, c'est que nous sommes jusque-là impayés. Nous ne savons même pas comment bouger. Nous sommes là, nous ne savons pas quoi faire, que le gouvernement puisse faire en sorte que nous soyons payés et qu'on organise cette fête tant attendue par les enfants.
En revanche, dans les églises, des prières matinales sont organisées chaque jour en cette période en signe d'action de grâce. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, pendant ce temps, les élèves de 60 écoles primaires publiques de la sous-division Rutshuru 1 viennent de recevoir une assistance en fourniture scolaire. Ce don est de l'organisation internationale World Vision à travers son projet Come Back to School. Soulagé par cet appui en pleine période de crise, le responsable d'école salue ce geste tout en plaidant pour une extension de l'aide humanitaire aux autres secteurs vitaux dans cette région. C'est la joie sur place, nous dit Rosalie Zawadi.
À Kiwanja, la directrice de l'école primaire Kasuli, Madame Salom Kavira, se réjouit déjà. Après les fêtes, ses élèves reprendront les cours avec tous les matériels nécessaires.
En tout cas, nous sommes satisfaits puisque c'était notre besoin. Les enfants n'avaient pas de fourniture scolaire, mais progressivement, en tout cas, nous allons travailler avec ça.
Même satisfaction du côté de l'école primaire Moukali, où le directeur Kakou les Messagers souligne l'importance de ses soutiens pour la réussite des enfants.
Concernant les degrés élémentaires, là il y avait l'ardoise, les crayons, stylo et 3 cahiers. Concernant les degrés terminales, on donnait quelques cahiers, des sapages, une boîte géométrique, crayons. En tout cas, nous remercions aux divisions, vous savez, nous sommes en train de passer dans une période de crise. Les parents n'ont rien, il y avait même des enfants qui venaient sans ardoise, sans cahier, ça impacte d'une manière négative pour l'évolution de l'enfant.
Les enseignants de ces écoles ont également reçu des boîtes de craie pour assurer leurs leçons. Toutefois, les besoins sont multiples. Les chefs d'établissement appellent à la construction des nouvelles infrastructures pour accueillir dignement les élèves de plus en plus nombreux dans ces écoles publiques. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Du côté sécuritaire, dans la province du Haut-Katanga, le commandant de la 22e région militaire a placé en alerte toutes les unités de la police des FARDC afin de répondre à toute éventuelle provocation. Le général Edi Kapind a lancé cet appel hier lundi au camp-major Vangualou Mbashi lors de la parade mixte FARDC-police organisée en cette fin d'année. Il a rappelé à cette occasion aux policiers et aux militaires que leur mission première demeure la défense de la patrie et jusqu'au sacrifice suprême. À propos du général Edi Kapind, recueilli par Paula Munanga.
Il était l'occasion pour moi de rappeler la mission des forces armées et de la police et de mettre toutes les unités, nos soldats et nos officiers, en alerte pour être prêts à répondre à toute provocation d'où qu'elle vienne. J'ai demandé en rappel à tous les officiers et soldats les engagements pris pour chacun de nous de sacrifier notre vie pour la survie de la patrie. Et je leur ai dit que moi comme commandant, les jours que je serai au devant de tout, au front, que personne entre mes collaborateurs, officiers ou soldats, n'aura droit de fuir. C'est lui qui va fuir. Donc, il n'a pas été avec nous. Il n'est pas pour la République. Il n'est pas pour les drapeaux de la patrie. Il n'est pas pour la paix, pour la sécurité. C'est un traître. Et la patrie ne tolère pas et ne pardonne pas la trahison. Avec la bénédiction de l'Éternel, nous gagnerons. Nous, on ne va pas reculer. J'ai constaté que 2021, si l'ensemble de la juridiction est calme, ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes au sein de la police et des forces armées qui ont veillé avec des pour gérer ces cas et protéger nos frontières.
Dans la Chopo, l'association des professeurs de l'université de Kisangani dénonce l'insécurité criante qui prévaut dans la ville. Celle-ci cible particulièrement les professeurs d'université. Selon le président de l'APUKIS, Jean-Pierre Lifoli, cette situation empêche les professeurs de travailler chez eux la nuit. Il parle d'environ 10 professeurs attaqués par des bandits à main armée dans leur maison en l'espace de 2 semaines. La plupart ont perdu leurs biens de valeur et d'importantes sommes d'argent. Un autre grièvement blessé à la tête est interné dans une formation médicale de la place. L'APUKIS a dénoncé cet état de choses au cours d'un point de presse lundi au centre Monaco de l'UNIKIS. Il plaide pour un renforcement des moyens de la police afin que la population soit sécurisée. L'appel du professeur Lifoli dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Il y a des problèmes de communication. Parfois, la voirie n'est pas bonne. Vous pouvez appeler, mais le temps que le véhicule quitte pour arriver là où vous êtes, il y a des retards. Il y a aussi des problèmes d'effectifs. Il faut qu'on donne des moyens à la police pour recruter, former, pour que on puisse sécuriser la population. Voilà, ça, c'est une demande. Et aussi, les parents qui sont là. Puisque quand nous allons arrêter les cours, c'est alors que tout le monde va crier, voilà, ils sont mauvais, ils ont fait ceci. Mais maintenant que nous sommes en insécurité, et ces bandits-là, ils vivent dans la cité. Ils appartiennent à des familles. Nous appelons les familles aujourd'hui qui nous écoutent puissent tout faire pour demander à leurs enfants de cesser d'agresser les professeurs. Si vous avez bonne mémoire, nous avons connu des années blanches ici à cause des agressions des professeurs. On nous avait agressés par nos propres étudiants et nous avons décidé de ne pas travailler puisque nous étions dans l'insécurité. Bon, maintenant, la situation se répète. Ça, c'était en 2019. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025. C'est devenu une autre forme d'insécurité. Cette fois-là, ce sont des bandits armés qui cible les professeurs des universités. Raison pour laquelle nous demandons que nous puissions être protégés.
Sport à présent, les Léopards de la RDC entrent en lice ce mardi à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour leur première sortie, ils vont jouer contre les Guépards du Bénin. En prévision de ce match, quelques Louchois se sont prononcés au micro de Paula Munanga.
Je pense qu'on va aller à 3-1. Le Congo gagne 3-1. Nous avons un niveau, quand vous regardez la cohésion du jeu, comparativement à l'équipe du Bénin, nous sommes plus en position de favori. On a plusieurs chances, mais il faut saisir cette chance. De bien gagner, bien jouer, se maintenir, avoir la tête froide face aux opportunités. Parce qu'on en aura. on sera qualifié pour la Coupe du Monde.
Je crois que la RDC sortira victorieuse par un score, si je ne me trompe pas, de peut-être 2-0. Je suis sûr, l'équipe est en forme avec cette équipe que nous avons. Et puis, en tenant compte aussi des prestations que nous avons effectuées dernièrement, donc à 100%, je crois qu'on va gagner.
Bon, moi, je donne 2-1. Le Léopard, c'est une bonne équipe. À partir des victoires antérieures que nous avons eues, et ça nous donne l'assurance que demain, la victoire est certaine.
L'RDC va gagner 5-1. L'RDC est en forme à 100%.
Pour moi, la RDC va gagner 2-0. Parce que la RDC, c'est une grande équipe. Je suis sûr, avec nos joueurs professionnels, l'équipe est en forme.
Actualité internationale.
L'administration Trump rappelle près de 30 diplomates de carrière occupant des postes d'ambassadeurs et d'autres fonctions de haut niveau dans les ambassades. Les chefs de mission d'au moins 29 pays ont été informés la semaine dernière que leur mandat prendrait fin en janvier selon deux responsables du département d'État. Pour Africa News, l'Afrique est le continent le plus touché avec les ambassadeurs retirés de 13 pays. L'Asie arrive en deuxième position.
L'invité.
Nous recevons une fois de plus Ndeye Kadilo, porte-parole de la MONUSCO. Dans cette deuxième partie de l'entretien, nous continuons de creuser avec elle la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prolonge d'un an le mandat de la mission onusienne. Elle explique notamment comment la MONUSCO compte mener à bien son nouveau mandat alors qu'elle a déjà entamé son retrait progressif. Ndeye Kadilo, s'entretient avec Jean Gandou.
Ndeye Kadilo, bonjour.
Bonjour Jean.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient à travers la résolution 2808 de prolonger d'un an le mandat de la MONUSCO. Dans la résolution dernière, l'accent a été placé beaucoup plus sur la protection des civils. Comment est-ce que la MONUSCO entend assurer cette protection, surtout pour les civils qui sont dans les zones à haut risque, alors que son retrait progressif est déjà engagé?
Alors, la protection des civils demeure au cœur du mandat et c'est la priorité absolue de la MONUSCO avec cette résolution 2808-2025. La résolution stipule que la protection des civils doit primer dans toutes les décisions relatives à l'utilisation des capacités et ressources disponibles. La MONUSCO doit maintenir un déploiement proactif et une posture mobile flexible, robuste et efficace, particulièrement dans les zones à haut risque. La mission doit aussi renforcer ses mécanismes d'engagement communautaire et ses systèmes d'alerte précoce afin de créer un environnement protecteur.
Madame la porte-parole, dites-nous, face aux campagnes de désinformation et aux discours de haine, quelles stratégies de communication proactive seront mises en place pour informer les populations et préserver la crédibilité de la mission?
Alors, afin de préserver sa crédibilité, la MONUSCO va adopter une communication stratégique et proactive. La résolution 2808-2025 encourage des efforts de communication conjointe entre la MONUSCO et le gouvernement congolais afin d'informer sur le désengagement et de contrer les campagnes de fausses informations. Le Conseil demande d'explorer des options pour maintenir la programmation indépendante de Radio Okapi, même après le retrait de la mission. La résolution demande aussi à la mission d'utiliser ses bons offices et ses efforts de médiation locale afin de prévenir l'escalade de la violence liée au discours de haine.
À ce stade, comment la MONUSCO et ses partenaires comptent-ils mesurer l'impact des actions prioritaires, notamment la protection civile, le DDR et la réforme du secteur de sécurité dans un contexte de crise humanitaire et sécuritaire assez persistante?
Alors, le Conseil de sécurité a mis en place un mécanisme de suivi très rigoureux. Il s'agit de rapports trimestriels. Le secrétaire général doit fournir un rapport tous les 3 mois, incluant des évaluations de performance et d'impact. Il y a dans ces rapports des indicateurs spécifiques qui doivent porter sur des tâches de protection des civils, des opérations de la FIB, la coordination avec les forces armées de la RDC et les progrès dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité. Une analyse sur le genre doit également être intégrée dans tous les rapports afin de mesurer l'impact sur les filles et les femmes.
Le Conseil de sécurité a insisté sur un retrait graduel, responsable et durable. Alors, quelles leçons ont été tirées des précédentes phases de désengagement pour éviter des erreurs similaires prochainement?
Absolument. Le retrait est qualifié de graduel, responsable et durable en s'appuyant sur l'expérience passée. Il s'agit ici d'éviter les vides sécuritaires. Selon la résolution, le retrait doit être accompagné d'un renforcement simultané des capacités de l'État, police et armée, afin d'éviter tout vide sécuritaire. En tirant les leçons du Sud Kivu, la résolution demande explicitement de prendre en compte les leçons tirées du désengagement afin de faire en sorte que les phases suivantes en Ituri et au Nord Kivu se fassent d'une façon qui prenne en compte tout ce qui a été vécu au Sud Kivu. D'après la résolution, le processus doit impliquer les équipes de transition provinciales, les communautés locales et la société civile afin d'assurer que les conditions de travail sur le terrain permettent le départ. Enfin, cette nouvelle résolution, contrairement à l'autre de l'année précédente, reconnaît une pause dans le cadre du processus de désengagement.
La toute dernière question, Madame la porte-parole, avec la baisse des ressources et des troupes, comment la MONUSCO envisage-t-elle de maintenir l'efficacité de ses opérations prioritaires, notamment la protection des civils et les soutiens au processus de paix?
Alors, pour compenser la réduction des effectifs plafonnés à 11 500 militaires, la mission mise sur l'optimisation et l'exigence de qualité qui fait que les pays contributeurs de troupes doivent fournir du personnel disposé, capable et équipé avec les compétences linguistiques nécessaires et un minimum de réserves qu'on appelle CAVIT. L'usage de la technologie de pointe, la MONUSCO est autorisée à utiliser des systèmes aériens sans pilote, des drones, pour la surveillance et le renseignement. La mission travaille aussi étroitement avec l'équipe de pays des Nations Unies pour que les agences spécialisées prennent le relais sur les questions comme la protection de l'enfance et la lutte contre les violences sexuelles.
Dekadi Lo, je rappelle que vous êtes porte-parole de la MONUSCO et merci de vous être prêté à nos questions.
Merci Jean.
Merci, au revoir.
C'est un entretien à retrouver sur notre site www.radiocapi.net et sur nos plateformes digitales. Merci d'avoir suivi ce journal qui a connu l'apport d'Alain Irung et Billy Landribetou. Excellente journée.